Notre histoire commence le 30 juin 1559 dans la rue Saint-Antoine à Paris. La foule s'est déjà massée en nombre pour assister à un événement exceptionnel, un véritable tournoi de chevalerie. L'allée a été dépavée pour l'occasion, des tribunes ont été dressées pour les personnages de la cour et des décorations par centaines enchantent le lieu du tournoi. Les prétendants chevauchent de splendides destriers carapaçonnés, mais le plus illustre de tous n'est autre que le roi de France en personne, Henri II, qui va s'élancer dans quelques instants pour un duel mémorable. Le tournoi bat son plein. Les joutes se succèdent dans un tourbillon d'actions spectaculaires au rythme des clameurs admiratives de la foule. Des chevaliers se retrouvent projetés au sol, tandis que d'autres se couvrent de gloire. Le roi Henri II prend grand plaisir à ces impressionnants affrontements et ne cache pas son envie d'enfourcher son destrier et de brandir sa lance. L'occasion se présente le dernier jour du tournoi. À l'annonce d'un duel impliquant Henri II, on se presse autour de la figure royale pour l'enjoindre de renoncer à cette folie. La reine, Catherine de Médicis, se montre très véhémente pour dissuader le roi de monter en scène. Elle largue une prédiction funeste que le très célèbre augure Nostradamus lui avait exposée quelques jours auparavant. Toutes ces craintes ne sont pas dues à un manque de talent du roi, dueliste réputé, mais plutôt au grand danger de Paris tournoi. L'âge avancé du roi, pour l'époque, 40 ans, n'invite pas non plus à l'optimisme. Pourtant, Henri II monte en selle et par deux fois, il triomphe aisément de valeureux prétendants sous les cris assourdissants d'une foule en délire. Le roi, galvanisé par ses succès, veut absolument concourir pour une ultime manche contre un adversaire d'exception, Gabriel de Montgomery, le capitaine de sa garde écossaise, un jeune et talentueux chevalier qui a déjà glané plusieurs victoires lors des manches précédentes. L'adversaire désigné du roi tente par tous les moyens d'éviter de croiser le fer, mais Henri II ne lui laisse pas le choix. Pour ce face-à-face d'exception, la foule retient son souffle. Les deux adversaires se placent en position pour un premier assaut et s'élancent à toute vitesse. Le choc est terrible et les deux lances se brisent dans un bruit épouvantable. L'entourage du roi redouble d'efforts pour le convaincre de renoncer à remonter en selle pour un second assaut. Il refuse catégoriquement les supplications de ses proches et remonte aussitôt sur son destrier. La foule produit un vacarme assourdissant. On se bouscule pour assister à cette manche qui s'annonce épique. Dans l'exaltation du moment, le roi oublie de baisser sa visière. Emporté par sa fougue, il éperonne son cheval et s'élance à toute vitesse sans que son adversaire soit prêt. Surpris, Montgomery s'élance avec un peu de retard, sans avoir eu le temps de changer sa lance brisée. Cette fois-ci, le choc est encore plus spectaculaire. Au milieu du chaos, les deux montures s'affaissent dans la poussière. Montgomery se relève rapidement, mais le roi reste étrangement immobile. On saisit Henri II et on l'amène à l'écart de la cohue. À travers la visière toujours relevée, on remarque des bouts de la lance qui se sont profondément enfoncés dans le crâne du roi. Les tentatives pour enlever le casque du souverain aboutissent à des flots de sang ininterrompus. Dans la stupeur générale, Montgomery se jette aux pieds du roi et réclame châtiment, sa main ou sa tête coupée, pour son inexcusable faute. Henri II, dans un éclair de lucidité, absout calmement le jeune chevalier en lui promettant que rien ne lui sera fait. Le roi n'a pas le temps de finir sa phrase qu'il perd connaissance. Catherine de Médicis, qui voit sa prophétie se réaliser pour son plus grand malheur, s'évanouit également. Ambroise Paré, premier chirurgien du roi, obtient l'autorisation d'aller chercher quatre condamnés à mort dans la prison du Châtelet pour l'aider dans ses recherches. Non pas pour l'assister, mais bien en tant que cobaye de choix. Il tente à de nombreuses reprises de reproduire la blessure du roi à l'aide de lances enfoncées allègrement dans la tête de ces malheureux. On scie ensuite délicatement les crânes des prisonniers pour avoir un aperçu des lésions provoquées. Ces tentatives désespérées n'ont pas les résultats escomptés, et l'état du roi continue à se dégrader, même s'il reste encore en vie, la plupart du temps en proie au délire. Alors que la mort du roi semble inévitable, elle traîne en longueur des jours durant. Autour du lit royal, les rapaces s'affairent, sentant les opportunités de la succession. Finalement, après 11 jours d'atroces souffrances, le roi Henri II rend son dernier soupir le 10 juillet 1559. La mort du souverain provoque un tourbillon politique. on installe sur le trône le très jeune et manipulable François II, et c'est en réalité la famille noble des Guises, farouchement opposée au courant protestant, qui accède au pouvoir avec l'assentiment de la reine Catherine de Médicis. Leur ascension initie de nouvelles guerres de religion qui vont ensanglanter le royaume pour bien des années.
I'll be back.